Donc bonsoir à tous, séance du jeudi 23 janvier 2025, lecture de l'esprit des lois. C'est notre cinquième séance, donc consacrée à cette lecture. Alors avant de poursuivre cette lecture, il me semble utile de rappeler brièvement quelques points que nous avons vus la dernière fois. Vous avez eu des vacances, hein? Bon, donc vous avez l'esprit un peu assoupi, hein? Donc il faut revoir tout ça. Donc je vais quand même rappeler quelques points, parce que ça ne sert à rien d'avancer si, bon, certains acquis ne sont pas rappelés. Donc nous avons présenté la typologie des gouvernements établie par Montesquieu au début de son livre 2 de l'Esprit des lois. Conformément à une tradition qui remonte au moins au philosophe Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, Montesquieu distingue trois formes de gouvernement. Et je vous ai dit que ici gouvernement, il ne faut pas l'entendre au sens moderne, où gouvernement signifie pouvoir exécutif, donc le gouvernement, c'est le synonyme au fond d'un État. Donc trois formes de gouvernement. Mais sa typologie est originale, puisqu'elle fait apparaître une nouvelle forme de gouvernement qui n'existait pas dans les typologies antérieures. Et ici, je veux parler du gouvernement despotique. Alors, les trois formes de gouvernement distinguées par Montesquieu sont le gouvernement républicain, qui peut lui-même avoir deux formes, la démocratie et l'aristocratie. Vous avez ensuite le gouvernement monarchique et enfin le gouvernement despotique. Alors, pour montrer la différence avec ce qui se faisait traditionnellement, je dirais que là où on distinguait la démocratie, l'aristocratie, la monarchie, c'est-à-dire la démocratie gouvernement de tous, aristocratie de quelques-uns, d'une élite, monarchie, gouvernement d'un seul. Donc là, vous aviez cette typologie, hein, ces trois gouvernements en fonction du nombre de gouvernants. Et traditionnellement, enfin, c'est ce que faisait en tout cas Aristote, il faisait correspondre à chacun des gouvernements ainsi distingués un gouvernement déviant, un gouvernement corrompu. Par exemple, l'oligarchie est une déviation de l'aristocratie. Et la différence, c'est que une aristocratie digne de ce nom, eh bien, c'est un gouvernement qui vise l'intérêt général, tandis qu'une oligarchie, c'est un gouvernement dévié, corrompu, parce qu'il vise seulement la satisfaction d'intérêts particuliers. Et puis, de la même manière, la tyrannie était une déviation de la monarchie. Vous voyez ? Donc c'est comme ça qu'on considérait les choses. Hein ? En tout cas, que Aristote considère les choses dans son grand texte de philosophie politique qui s'appelle « Les politiques ». Alors, donc là où on distinguait démocratie, aristocratie, monarchie, avec leur forme déviante, eh bien, Montesquieu distingue donc le gouvernement républicain. Et alors, l'intérêt de ce gouvernement républicain, c'est qu'il ramasse démocratie et aristocratie. Vous voyez ? Il regroupe les deux. Alors, vous avez le gouvernement républicain, ensuite le gouvernement monarchique, je l'ai dit, et puis le gouvernement despotique. Quel est l'intérêt de cette modification ? L'intérêt de cette nouvelle typologie ? Elle fait place à un nouveau gouvernement qui est le gouvernement despotique. Et c'est ça la nouveauté de Montesquieu. Et c'est à dessein qu'il parle de despotisme et non plus de tyrannie. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est la même chose. Et non, c'est exprès qu'il parle de gouvernement despotique et non pas de tyrannie, comme on le faisait traditionnellement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement despotique n'est pas une déviation du gouvernement monarchique, comme on le disait traditionnellement, de la tyrannie. C'est un gouvernement politique à part entière. À part entière. Et comme on l'a vu lors de la séance précédente, l'invention conceptuelle de Montesquieu consiste à transformer la notion de despote en une notion politique. Dans la tradition, c'est-à-dire je me réfère encore à Aristote, qui est la grande référence, dans la tradition, le despote, c'est le maître qui a autorité sur ses esclaves. C'est-à-dire son pouvoir est d'ordre domestique et non pas politique. Et Aristote insiste sur la nécessité de ne pas confondre les deux domaines. L'autorité politique est celle qu'on exerce sur des égaux, c'est-à-dire sur des hommes qui sont citoyens, sur des hommes libres. Ces hommes qui sont gouvernés, ils sont les égaux des gouvernants. Et justement, qu'est-ce qui fait que la tyrannie, pour Aristote, est condamnable ? Eh bien, elle est condamnable justement parce que le tyran traite ses concitoyens comme des esclaves. Il leur fait violence. Et c'est en cela qu'il y a scandale. En revanche, il n'y a aucun scandale à ce qu'un homme libre ait des esclaves. Vous voyez ? Et en tant qu'il est despote, en tant qu'il est maître domestique, eh bien, il dispose comme il l'entend de ses esclaves. C'est son affaire privée. Ce ne sont pas des citoyens, des esclaves. Ils ne relèvent pas du domaine politique. Mais pour Montesquieu, comme d'ailleurs pour tous les modernes, eh bien, il n'y a pas d'esclavage par nature. Il n'y a pas d'esclavage par nature. L'esclave, celui qui est esclave, c'est celui qui a été contraint à le devenir par la violence. Il n'y a pas d'esclavage par nature. Les hommes sont égaux naturellement. Il y a une humanité une et universelle. Il n'y a pas d'autorité naturelle d'un homme sur un autre. C'est ça la nouveauté. Par conséquent, pour Montesquieu, tout gouvernement qui s'impose arbitrairement et traite les hommes comme des esclaves est un gouvernement despotique dans lequel, je cite ici ce que dit Montesquieu du gouvernement despotique, chapitre 1, livre 2, dans lequel un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Ça, c'est le premier point. J'espère que c'est clair. Bon. Deuxième point, pour distinguer les différentes formes de gouvernement, Montesquieu recourt à deux critères, comme on l'avait vu. Le critère du nombre, qui est le plus simple d'abord, le plus facile à cerner, le critère du nombre de ceux qui gouvernent. Et sous cet angle, le gouvernement républicain, qui a deux formes, aristocratique ou démocratique, eh bien le gouvernement républicain se distingue du monarchique et du despotique dans la mesure où dans un gouvernement républicain, il y a toujours plusieurs gouvernants, si ce n'est tous, hein, puisqu'il peut être composé par le peuple en totalité. Mais quant au gouvernement monarchique et au gouvernement despotique, en fait, ils ne se distinguent pas en nombre, puisque dans les deux cas, un seul gouverne. C'est pourquoi Montesquieu introduit un second critère. Il distingue encore les gouvernements selon la manière de gouverner. Dans un gouvernement monarchique, le roi, je cite le texte, hein, le roi gouverne par des lois fixes et établies. Par des lois fixes et établies. Et dans un gouvernement despotique, je reprends la formule, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Alors, ce deuxième critère est vraiment de loin le plus important. Hein. Et comme il s'avère le plus important, eh bien Montesquieu est conduit progressivement au cours de son œuvre à mettre en avant une deuxième typologie des gouvernements, où cette fois, il ne distingue pas trois formes de gouvernement, mais deux formes de gouvernement, deux types de gouvernement, les gouvernements modérés. C'est-à-dire, les gouvernements modérés, ce sont les gouvernements réglés par des lois. Et de ce point de vue, les républiques et les monarchies sont des gouvernements modérés. Alors aujourd'hui, on ne dirait pas gouvernement modéré, on dirait état de droit. Vous voyez ? Et puis, évidemment, ces gouvernements modérés s'opposent au gouvernement despotique qui, lui, est sans loi, sans règles. Troisième point, si pour Montesquieu, on ne peut pas parler, souvenez-vous, dans l'absolu, du gouvernement le meilleur, hein, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit, puisqu'on ne peut évaluer un gouvernement qu'en fonction d'un contexte qui est toujours particulier, que relativement aux dispositions particulières d'un peuple. Hein, vous vous souvenez de ce que nous avions dit ? Eh bien, pour Montesquieu, je rappelle, donc, il n'y a pas de gouvernement le meilleur dans l'absolu, ça n'a pas de sens de concevoir les choses de cette façon, il n'y a pas de modèle. En revanche, on peut dire, dans l'absolu, que le gouvernement despotique est le pire de tous. Vous voyez, il n'y a pas de meilleur dans l'absolu, mais dans l'absolu, il y a le gouvernement le pire. Il est le pire des gouvernements, quel que soit le peuple et quelles que soient les circonstances. Pourquoi ? Parce que c'est un gouvernement monstrueux, c'est l'adjectif par lequel Montesquieu qualifie le gouvernement despotique, c'est un gouvernement monstrueux, qui viole les exigences de la nature humaine, qui se font sentir en tous les hommes, quel que soit le peuple auquel ils appartiennent. Alors, qu'est-ce que l'on entend par ces exigences de la nature humaine ? Ces exigences de la nature humaine, ce sont ces lois de nature que Montesquieu a dégagées au chapitre 2 du premier livre. Vous vous souvenez, quand il a parlé des lois de nature, eh bien, les lois de nature caractérisent, au fond, la sensibilité humaine, hein, la nature humaine. Vous voyez ? Bon, je ne reviens pas là-dessus. Hein. Troisième point, et plutôt, oui, bon, je ne suis plus dans ce quatrième point, l'étude des différents types de gouvernement que mène Montesquieu le conduit à aborder le problème de l'obéissance d'une manière très très différente de celle des philosophes du droit naturel moderne que je vous ai déjà présenté. Ces philosophes qui mettent en avant l'idée d'un contrat social au fondement de l'association politique. Même si, bien sûr, ils ne sont pas tous exactement sur la même longueur d'onde, Hobbes, Locke, Pufendorf, etc., ce sont des philosophes du droit naturel moderne qui font reposer, au fond, la société sur un contrat social, sur un pacte social. Et, évidemment, c'est ce pacte qui va définir les conditions de l'obéissance. Pour Montesquieu, la question importante n'est plus de se demander ce qui justifie qu'on obéisse à l'autorité politique, ce qui fonde sa légitimité, ça c'était la question que se posent les philosophes du droit naturel moderne, hein. Qu'est-ce qui justifie l'obéissance à l'autorité politique ? Qu'est-ce qui légitime, au fond, l'autorité politique ? Donc ça, ce n'est plus la question que se pose Montesquieu. Sa question, et il change de problématique, c'est ce qu'on avait vu. Sa question, c'est celle de comprendre ce qui, dans les faits, motive l'obéissance des hommes, ce qui motive l'obéissance des hommes, étant entendu qu'on n'obéit pas de la même manière selon qu'on vit dans une république, dans une monarchie ou dans un gouvernement despotique. La manière d'obéir n'est pas la même. On ne peut pas, voyez, parler au fond de l'obéissance d'une seule et même manière. Il y a plusieurs manières d'obéir, plusieurs types d'obéissance selon le type de gouvernement. Et donc, pourquoi la manière d'obéir est-elle différente selon les types de gouvernement? Parce que la passion ici qui motive l'obéissance n'est pas la même. La passion, c'est la disposition, si vous voulez, subjective, la disposition affective qui pousse les hommes à obéir. Elle n'est pas la même selon le type de gouvernement. Et il y a une passion, vous voyez, qui est au fond le moteur de l'obéissance. Et c'est grâce à cette passion qu'un gouvernement peut exister et se maintenir. Sinon, il s'effondre. C'est ce qu'on va voir. Par exemple, en étudiant la République, sans vertu, la République s'effondre. C'est pourquoi Montesquieu appelle cette passion le principe du gouvernement. Il l'appelle le principe. Pourquoi ? Parce que le principe, c'est ce qui est, en quelque sorte, ce qui est, je dirais, ce qui commande. C'est ce qui commande. Eh bien, le principe est ce qui donne vie, ici, au gouvernement. Et il y a trois sortes de principes qui correspondent à chacun des types de gouvernement. C'est ce que nous avions aussi montré. La vertu, d'abord, qui signifie amour des lois. On va y revenir, hein. La vertu, c'est le principe du gouvernement républicain. L'honneur, qui est le principe du gouvernement monarchique. La crainte, qui est le principe du gouvernement despotique. Voilà, si vous voulez, l'essentiel qu'il faut avoir à l'esprit si nous voulons avancer. Alors, ces points ayant été rappelés, nous pouvons maintenant réfléchir à la manière dont Montesquieu aborde l'examen des différentes formes de gouvernement. Et ensuite, quand nous aurons vu ça, nous aborderons le gouvernement républicain. Vous voyez ? Donc, il faut d'abord comprendre la façon dont Montesquieu examine les différentes sortes de gouvernements. Au cœur de cet examen, au centre de cet examen, Montesquieu utilise un couple de notions, la notion de nature et la notion de principe. Hein ? Nature et principe. Et ces notions sont fondamentales. Elles sont fondamentales, elles commandent l'analyse de Montesquieu. Donc il faut les comprendre, il faut les maîtriser. Et d'ailleurs, si je vous renvoie au texte, c'est le texte page 2, en bas. Début du chapitre 1er du livre 3, deuxième paragraphe, il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel, et son principe, ce qui le fait agir. L'une est sa structure particulière, et l'autre, les passions humaines qui le font mouvoir. Alors, je crois qu'il faut simplement commenter. Donc, je reprends, la nature d'un gouvernement, c'est ce qui le fait être tel. C'est ce qui fait qu'il est républicain, monarchique ou despotique. C'est ça, sa nature. Un gouvernement a une nature au sens où il a une structure particulière, qui est celle d'une république, d'une monarchie. Et la structure particulière de ce gouvernement résulte des lois politiques qui le forment qui le constituent et que l'on appelle les lois fondamentales. Les lois fondamentales, ce sont les lois qui organisent un gouvernement, qui le structurent. On appelle ça aujourd'hui une constitution. Le principe d'un gouvernement, comme dit Montesquieu, c'est ce qui le fait agir. On a vu que c'est la passion qui permet aux hommes de lui obéir et qui, par là, contribue à sa conservation. Si le principe disparaît, le gouvernement s'effondre. Donc, voyez que, ça, il va falloir surtout bien comprendre ce point, la nature et le principe d'un gouvernement, ce ne sont pas deux notions complètement séparées, complètement séparables. Elles sont solidaires l'une de l'autre. Je m'explique. Ainsi, par exemple, il ne suffit pas que des lois organisent la structure d'un gouvernement en rapport avec sa nature pour qu'il se maintienne. Je prends un exemple. Il ne suffit pas qu'une république soit formée, soit constituée par des lois fondamentales pour se conserver. Si elle n'est pas animée par la vertu qui est son principe, c'est-à-dire si les hommes ne lui obéissent plus par amour des lois, et s'il n'y a pas de loi civile pour entretenir cet amour, eh bien, cette république risque de disparaître. Tout simplement. Donc, il y a, voyez-vous, un lien nécessaire entre la nature et le principe d'un gouvernement. Et pour mieux se faire comprendre, Montesquieu écrit dans l'avertissement au lecteur, qui est postérieur à la parution de son ouvrage, hein, en 1757. Il sera mort à ce moment-là, puisqu'il meurt, en 55. Mais il a rédigé tout de même un avertissement qui était destiné à répondre au censeur, hein, qui avait lu son ouvrage. Bon. Et dans cet avertissement, justement, Montesquieu clarifie les choses. Il va se servir d'une analogie pour penser le fonctionnement des gouvernements. On peut comparer un gouvernement à une machine. Et je développe l'analogie. Ainsi, de même qu'une machine a une structure particulière. Qu'est-ce que c'est qu'une machine ? C'est un assemblage de pièces disposées de telle sorte qu'elles puissent communiquer les unes aux autres le mouvement qui leur est transmis. C'est comme ça, une machine, hein, un agencement de pièces qui se communique, donc un mouvement qui est transmis. Eh bien, de même, donc, une machine a une structure particulière, de même, les gouvernements sont caractérisés par un certain agencement de leur pouvoir, législatif, exécutif, judiciaire, agencement fixé par des lois fondamentales. Bon. Mais on va plus loin. Mais de même qu'il ne suffit pas qu'une machine ait une structure pour fonctionner, de même qu'il lui faut un moteur, un ressort, si vous voulez, comme dans une montre, pour la mettre en mouvement, eh bien de même, il ne suffit pas que le gouvernement dispose juridiquement du pouvoir de faire les lois et du pouvoir de les faire exécuter pour qu'ils obtiennent réellement leur exécution. Hein ? Voilà, il peut être agencé pour élaborer des lois, pour les faire exécuter, mais s'il n'y a pas d'exécution, ça ne marche pas. Eh bien, les hommes, encore une fois, n'obéissent que s'ils sont motivés par la passion que requiert la nature du gouvernement. Et si je pousse encore l'analogie plus loin, eh bien nous pouvons dire que de même que dans une machine, le ressort, le moteur, ne peut pas être n'importe quelle pièce de la machine, une roue, un pignon, hein, c'est une pièce particulière, hein, qui sert de moteur. Eh bien de même, le principe du gouvernement ne peut pas être n'importe quelle passion. Il est seulement la passion qui pousse les hommes à obéir à ce type de gouvernement. La vertu, par exemple, comme on va le montrer, elle est indispensable à une république, mais pas à une monarchie. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante dans une monarchie. Il peut y avoir des hommes vertueux dans une monarchie, mais ce n'est pas nécessaire. Hein, une monarchie peut parfaitement subsister sans que les hommes aiment les lois, ce que Montesquieu va montrer. Elle repose sur une toute autre passion, sur un tout autre moteur qui est l'honneur. Et dans un gouvernement despotique, en revanche, les hommes étant réduits à la crainte, la vertu et l'honneur n'y ont aucune place. Hein. Mais si la crainte disparaît, c'est-à-dire si le despote cesse de se faire craindre, eh bien, son gouvernement s'effondre. Vous voyez ? Voilà comment ça marche. Hein ? Donc, vous voyez, l'analogie avec la machine nous permet de comprendre le fonctionnement d'un gouvernement. Alors, venons-en maintenant à l'examen du gouvernement républicain. Alors, son examen apparaît d'autant plus important que nous ne savons plus très bien aujourd'hui ce qu'est une république et ce que veut dire républicain. Puisque ce sont des termes qui sont invoqués par tout le monde. Tout le monde se dit républicain. Tout le monde invoque la République. Mais ceux qui l'invoquent se gardent bien de la définir. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Monsieur Trump est républicain. Vous avez plein de gens qui se disent républicains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, le mot, effectivement, est d'autant plus facilement invoqué qu'il est vide de sens. La plupart du temps. Enfin, qu'on ne sait pas bien ce qu'on veut dire. Alors, au moins, l'intérêt de Montesquieu, c'est de nous contraindre à regarder de près ce que ça veut dire. Alors, nous allons, en étudiant le gouvernement républicain, nous allons nous confronter à deux questions majeures. La première, évidemment, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'une république. Mais ensuite, deuxièmement, si nous suivons le propos de Montesquieu, il s'agira de se demander pourquoi ce régime, pourquoi ce gouvernement est fragile. Parce que c'est un gouvernement fragile. On peut s'en douter s'il repose sur la vertu. Et pourquoi est-il un gouvernement surtout où l'obéissance est la plus problématique ? L'obéissance à l'autorité et aux lois. C'est le régime dans lequel l'obéissance est la plus problématique. Elle n'est pas aussi problématique dans une monarchie. À quoi j'ajouterai une dernière question, qu'on verra à la fin de l'examen du gouvernement républicain, et à laquelle nous conduira la lecture de Montesquieu, c'est pourquoi ce gouvernement lui paraît improbable dans les conditions qui sont devenues celles des États modernes. Les conditions d'un État moderne, c'est qu'ils ont une grande superficie, un grand territoire, une grande population, une démographie importante, et puis ils sont entraînés par l'essor du commerce vers un développement de plus en plus important des inégalités. C'est-à-dire que ça peut vous paraître bizarre, mais pour Montesquieu, la République, c'est un régime qui correspond au fond au passé, à l'Antiquité. La monarchie, c'est le gouvernement moderne. Alors, vous me direz, mais il s'est trompé. Sauf que si on regarde de près les choses, ce que nous appelons une république, c'est peut-être pas exactement une république. Ce que nous appelons une démocratie, c'est pas tout à fait ce qu'on entendait par là. Et puis, à la limite, nos républiques sont, disons, des mixtes de monarchies de républiques. Vous voyez, les choses sont peut-être plus compliquées, si vous voulez. Bon, mais on en reparlera. Les choses, ici, telles que je les agence, telles que je les présente, évidemment, ne sont pas encore assez claires. Bon, mais d'abord, examinons d'abord plutôt la nature du gouvernement républicain. Alors, comme nous l'avons dit, et il suffit encore une fois de se référer au chapitre 2 du livre 2, donc chapitre 2 du livre 2, c'est page 1, vous l'avez, colonne de gauche. Je vais lire le texte, vous lisez avec moi, c'est le début du chapitre. Lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d'une partie du peuple, cela s'appelle une aristocratie. Vous avez trouvé ? D'accord. Alors, c'est facile à comprendre, je commente un peu tout de même. La démocratie, c'est la forme la plus exigeante d'une république. En ce que le peuple, encore, c'est-à-dire en totalité, détient le pouvoir politique. C'est-à-dire que le peuple, il est à la fois souverain, c'est-à-dire qu'il commande, et puis il est aussi sujet, c'est-à-dire qu'il obéit. Il commande et en même temps il obéit. D'ailleurs, disons le deuxième paragraphe, le peuple dans la démocratie est à certains égards le monarque c'est-à-dire le chef d'État. Alors on dit le souverain aussi. À certains autres, il est le sujet. Le sujet, c'est-à-dire qu'il est soumis à l'autorité politique. Il est assujetti aux lois. Il est souverain en ce qu'il décide des lois qu'il se donne, et il est en même temps sujet au sens où il est assujetti à ses lois. Il est tenu de leur obéir. Alors, faute de temps, si vous voulez, nous laisserons de côté l'aristocratie, qui est une forme de république moins exigeante, car il s'agit d'une république dans laquelle la souveraine puissance, dit Montesquieu, est dans les mains d'une partie du peuple, c'est-à-dire d'une élite. D'une élite. Seule une élite, ici, décide des lois. Et le peuple est seulement sujet, si vous voulez. Mais l'élite doit obéir aux lois aussi. L'obéissance, elle est universelle. Hein. L'élite n'est pas au-dessus des lois. Elle décide des lois, mais elle n'est pas au-dessus des lois. C'est en ce sens-là que c'est une république. Hein ? Il y a égalité dans l'obéissance, si vous voulez. Alors, les chapitres que Montesquieu consacre aux républiques sont nourris d'exemples antiques. Il parle surtout de la cité athénienne, de Sparte, ou encore de la République romaine. Il se réfère aux auteurs anciens, grecs ou latins, aussi bien historiens que philosophes, comme Platon, Aristote, Polybe, Tite Livre, Tacite, et la liste n'est pas exhaustive. Hein. Donc, vous voyez, il cite plusieurs auteurs. Vous imaginez bien qu'un homme de son temps, un lettré de son temps, lit le latin, pas toujours le grec, mais en tout cas connaît très très bien l'histoire latine. Et Montesquieu a écrit un livre, je ne l'ai pas là, qui a pour titre « Considération sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains ». Livre très important, j'aimerais bien, une fois, vous présenter. Mais bon. Alors, pour autant, Montesquieu n'ignore pas les républiques contemporaines. Mais il s'agit là surtout de ce qu'il appelle, lui, des aristocraties. C'est le cas, par exemple, de la République de Venise. Il parle assez souvent de la République de Venise, assez en mal, d'ailleurs, parce que c'est une république qui a des tendances despotiques. Il évoque aussi les provinces unies. Ou encore, et là aussi c'est un point important, il évoque assez volontiers l'épisode républicain en Angleterre pendant la première révolution, au milieu du XVIIe siècle, république qui avait à sa tête Oliver Cromwell. Hein, au milieu du XVIIe siècle. Il y a eu un épisode républicain en Angleterre, mais pendant 20-30 ans, je ne sais plus combien la durée exactement, mais ils sont revenus à la monarchie. Il y a eu une deuxième révolution après, qui a donné la monarchie constitutionnelle. Alors, visiblement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour Montesquieu, le temps des républiques est révolu. Elles appartiennent surtout au passé antique. Et, comme il le dit d'ailleurs, c'est page 2, hein, si vous tournez la page, il le dit dans le texte qui est à droite, chapitre 3 du principe de la démocratie, ligne 21 à 23, C'est ce dont témoignent les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. Vous voyez, il dit, ce fut un assez beau spectacle dans le siècle passé de voir les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à établir la démocratie à notre époque. Il y a eu échec. Et cet échec mérite qu'on y réfléchisse. Donc, évidemment, pourquoi ? Je vous donne déjà la réponse, parce que, bon, on va développer après. Pourquoi le temps des républiques est-il révolu ? Eh bien, tout simplement parce que la vertu n'existe plus. Et qu'elle se trouve supplantée par les valeurs du commerce, qui sont celles de la modernité. Et ça, le diagnostic que fait Montesquieu sur l'essor de la modernité. Mais bon, c'est une question à revoir. C'est ce qu'il nous faudra comprendre après avoir étudié d'abord les républiques, et plus particulièrement les démocraties. Alors, démocratie. Étymologiquement, vous le savez, ça signifie « pouvoir du peuple ». Démos, le peuple. Kratos, le pouvoir. Gouvernement du peuple par le peuple. Mais si on suit l'analyse de Montesquieu, surtout dans le fameux chapitre 2 du livre 2, peut-on vraiment dire que la démocratie est le pouvoir du peuple, même à Athènes ? C'est ce qu'on dit d'Athènes. Ah, dans l'Antiquité, il y avait une démocratie directe. Le peuple exerçait directement le pouvoir. Est-ce que c'est aussi clair que ça ? La réponse à cette question dépend de la notion de peuple, qui est une notion ambiguë. Et on le voit très vite en lisant Montesquieu. Parce que le peuple est une notion qui, à la fois, a un sens politique, mais aussi un sens social. Et dans le chapitre 2 du livre 2, vous allez voir que Montesquieu oscille entre les deux sens. Il balance entre les deux sens. Quand il parle du peuple encore, corps c'est O-R-P-S, hein, quand il parle du peuple encore, la notion de peuple a un sens politique. Le peuple désigne ici, bien sûr, l'ensemble des citoyens réunis en assemblée qui décident des lois sur la place publique. Mais au fur et à mesure de son argumentation, Montesquieu fait intervenir une notion sociale où le peuple désigne alors surtout le petit peuple ou le bas peuple, la plèbe, si vous voulez. Et on aura l'occasion de s'en rendre compte. Et en faisant intervenir cette notion sociale du peuple comme petit peuple, il veut souligner son ignorance et son incompétence, son incapacité à exercer directement le pouvoir. Aussi est-il préférable qu'il soit guidé par les citoyens les plus éclairés. Et là, vous lisez avec moi un petit passage, page 2 toujours, page 2, donc de l'autre côté, ligne 144, alors malheureusement les chiffres sont mordus, ligne 144, 145, c'est à peu près au milieu, c'est à peu près au milieu. Vous voyez, il y a un paragraphe qui commence par « Sans doute que lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics, et ceci, vous avez trouvé ? Oui. Et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. » Et voilà la phrase qui m'importe. « Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux. » Les principaux, c'est les personnages les plus importants. « Et contenu par la gravité de certains personnages. » Vous avez noté cette formule ? Alors, à première lecture, aujourd'hui, on sera scandalisé par un tel propos, hein, méprisant, condescendant à l'égard du peuple. Étonnez-vous après qu'il y ait du populisme, vous voyez, espèce de mépris des élites à l'égard du peuple. Bon, mais on ne peut pas s'en tenir à ce genre de remarques. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'idée que Montesquieu a du peuple est très largement répandue au XVIIIe siècle. Jusqu'à la Révolution française, c'est... il va de soi que le peuple, au sens du bas peuple, il est incompétent, il est ignorant, il est animé par des passions, etc. C'est l'image qu'on en a. Et rares sont les auteurs, au XVIIIe siècle, qui se démarquent de cette conception, je dirais, péjorative du peuple. Il y a un auteur qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, qui s'appelle l'abbé Coyer, qui a écrit une dissertation sur le peuple, qui, justement, se moque de la représentation qu'on en a. Et puis, vous avez Rousseau. Rousseau, eh bien, peut-être l'un des premiers à, en quelque sorte, réhabiliter le peuple, au sens du petit peuple. Bon, et donc, d'ailleurs, il se trouve en rupture avec les philosophes de son époque, hein, Rousseau. Bon, mais, bon, ça, c'est la première remarque. Mais surtout, le propos de Montesquieu sur le peuple est essentiel à la cohérence des analyses qu'il développe sur la nature et les difficultés du gouvernement démocratique. Et c'est ça que je dois vous expliquer. Je répète, le propos que tient Montesquieu sur le peuple, qui peut paraître condescendant, eh bien, il est très important. Il faut l'intégrer dans l'analyse qui est celle de Montesquieu. Parce que si vous considérez justement ce qu'il dit sur la nature du peuple, vous comprendrez quelles sont les difficultés du gouvernement démocratique. C'est ça que nous allons comprendre. En effet, comme nous allons le voir, de la nature du peuple découle une difficulté que les lois fondamentales qui forment un gouvernement démocratique, eh bien, que les lois fondamentales ont pour fonction de surmonter. Alors, qu'est-ce que le peuple, d'abord ? Eh bien, comme le dit Montesquieu, il est d'abord de la nature du peuple d'agir par passion. C'est ce qu'il dit après dans le paragraphe qui vient plus loin de celui que nous avons lu. Vous voyez ? Il dit à un moment, d'ailleurs j'ai souligné, hein, « La brigue est dangereuse dans un sénat, elle est dangereuse dans un corps de nobles. » Elle ne l'est pas dans le peuple dont la nature est d'agir par passion. La nature du peuple, c'est d'agir par passion. Il est mobilisé par des passions, par des sentiments, par une affectivité. Le peuple, il ne raisonne pas, il ne réfléchit pas, il n'est pas constitué d'intellectuels, etc. Vous voyez, le peuple, il est animé surtout par des passions. Bon. Et cette caractérisation du peuple n'est pas uniquement négative pour Montesquieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que comme il l'explique à la fin du chapitre 2, il est important que le peuple se passionne pour la politique. Il est important que le peuple se passionne pour la politique. Il est important qu'il se sente concerné par les affaires politiques. Ou comme il l'écrit dans l'avant-dernier paragraphe, vous avez une formule évidemment qui est écrite un peu dans la langue de son temps, ligne 162, il dit « Il faut que le peuple s'affectionne aux affaires. » Il faut qu'il s'affectionne aux affaires, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux affaires politiques. Alors, petite remarque, la dépolitisation du peuple est une très mauvaise chose dans une démocratie. Elle traduit une forme de corruption. En effet, le peuple cesse de s'intéresser à la politique lorsqu'on l'a corrompu, à prix d'argent, lorsqu'on l'a acheté en se livrant au clientélisme, à certaines pratiques mafieuses. Vous voyez, on paye certaines catégories de gens. Vous voyez. Alors évidemment, dans ces conditions-là, l'intérêt politique s'effondre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des basses manœuvres, en quelque sorte. Et alors, je vous lis, là je crois qu'il faut le lire, ce passage. Vous voyez l'avant-dernier paragraphe, le malheur d'une république, vous l'avez trouvé ? Le malheur d'une république, j'ai souligné, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigue. Alors, C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de lutte d'intérêts, en quelque sorte, qui s'exprime publiquement. Donc je reprends. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigue. Et cela arrive lorsque l'on a corrompu le peuple à prix d'argent. Il devient de sang-froid. Il s'affectionne à l'argent, mais il ne s'affectionne plus aux affaires. Sans souci du gouvernement et de ce qu'on y propose, il attend tranquillement son salaire. Alors, comprenez qu'une démocratie ne peut pas être et ne doit pas être apaisée. Contrairement à ce qu'on entend dire aujourd'hui, une démocratie apaisée, ce n'est pas une démocratie. Une démocratie, justement, elle doit être vivante. Elle doit être animée par des passions, par des luttes d'intérêts qui sont contradictoires. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît, elle s'effondre dans la corruption et le cynisme. C'est-à-dire que là où il y a de l'apathie, hein, là où il n'y a pas de passion, de querelle, c'est que tout simplement il n'y a plus de vie politique. Et pourquoi il n'y a plus de vie politique? Parce que vous êtes dans une société corrompue. Donc il est important que la démocratie soit le théâtre d'affrontements exprimés entre des intérêts divergents. Et c'est ce que dit Montesquieu. Il faut qu'il y ait des brigues. Je reprends son expression. Le malheur d'une république, c'est lorsqu'il n'y a plus de brigues, donc de lutte d'intérêts. Alors, de la nature passionnelle du peuple résulte toutefois une contradiction qui fait toute la difficulté du gouvernement démocratique. Parce que d'un côté, il serait dangereux que le peuple n'investisse plus passionnellement la politique. Ça, ce serait très dangereux. Et c'est le danger, d'ailleurs, qui menace aujourd'hui les sociétés modernes, dit Montesquieu. Alors, vous allez voir, ça va vous faire sourire, ce passage. Vous allez à droite, là, c'est toujours la même page. À droite, prenez le texte, chapitre 3 du principe de la démocratie. Mais là, vous prenez la ligne 38. Vous allez trouver les politiques grecques. Alors, voilà ce que vous allez voir. On lit le passage. Les politiques grecques qui vivaient dans le gouvernement populaire, c'est-à-dire le gouvernement démocratique, ne reconnaissaient d'autre force qui pût le soutenir que celle de la vertu. La vertu, on va voir, c'est une passion. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même. Marché financier, de compétitivité, de start-up. J'arrête la liste. On s'y croirait, quoi. Voilà, par exemple. On parle que de ça. Eh bien, ça, c'est le monde moderne. Eh bien, Montesquieu, déjà, vous voyez, est conscient de ce glissement. On est en train de changer de monde. Donc, d'un côté, vous avez... ce serait dangereux, effectivement, que le peuple n'investisse plus passionnellement la politique. Mais de l'autre côté, il serait également dangereux que les passions du peuple commandent. Comme cela se produirait inéluctablement si le peuple exerçait directement le pouvoir. Vous voyez, il y a deux dangers qui sont, en quelque sorte, contradictoires. Il faut qu'il se mobilise passionnellement pour la politique, mais en même temps, si le peuple est le seul à avoir droit, si le peuple exerce directement le pouvoir, ça peut être dangereux. Ce dernier danger est d'autant plus grand que le peuple, selon Montesquieu, est également ignorant. Alors, lisez avec moi, page 1, vous tournez la page, page 1, ligne 71, à 75. Comme la plupart des citoyens qui ont assez de suffisance, c'est-à-dire de capacité, qui ont assez de suffisance pour élire, n'en ont pas assez pour être élus, de même le peuple, qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n'est pas propre à gérer par lui-même. Le peuple n'est pas propre à gérer par lui-même. Et alors, c'est ça le problème, hein, c'est que, animé par ses passions, le peuple est non seulement incapable de prendre la distance nécessaire pour juger les situations, hein, pour agir de manière opportune, mais en outre, il n'a pas les lumières, il n'a pas les connaissances qui lui permettraient de se diriger. Vous voyez ? Donc, s'il se laisse aller à ses passions, ça risque d'être une catastrophe. En conséquence, eh bien, les lois fondamentales, encore une fois, les lois qui forment un gouvernement démocratique, eh bien, elles doivent résoudre la contradiction qui résulte de la nature du peuple et prévenir la corruption de la démocratie si on se laisse aller aux passions du peuple. Corruption de la démocratie qui risque de se produire si le peuple participe directement au pouvoir. Alors, quelles sont ces lois fondamentales ? Quelles sont ces lois fondamentales qui déterminent la nature du gouvernement démocratique ? Pour l'essentiel, il s'agit d'abord de lois qui déterminent l'extension du peuple. Je veux dire par là, la question qui se pose, c'est qui est citoyen ? Qui fait partie du peuple ? Qui possède le droit de suffrage ? Il faut une délimitation. Il ne suffit pas d'habiter dans une cité pour y être citoyen. Vous savez bien qu'en Grèce, à Athènes, sont exclus les femmes, les esclaves, les métèques, sont pas citoyens. Finalement, il n'y a pas un nombre considérable de citoyens. Vous voyez ? Bon. Donc il faut d'abord des lois, vous voyez, qui délimitent en quelque sorte le peuple. Ensuite, il faut des lois destinées à corriger sa nature ignorante et passionnelle. En délimitant ses compétences et en le divisant en classes électorales hiérarchisées. Alors, sur le premier point, délimiter ses compétences, regardez bien. Sur le premier point, c'est-à-dire plutôt le premier point, c'est l'extension du peuple. L'extension du peuple, vous avez ligne 8 à 11. Ligne 8 à 11 du chapitre 2, hein. Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées. Sans cela, on pourrait ignorer si le peuple a parlé ou seulement une partie du peuple. Alors, il donne l'exemple de Rome, d'ailleurs, qui traite dans son livre précédent. Rome, vous savez, il y a eu un problème d'extension de la République. C'est-à-dire qu'au départ, c'était la cité, la ville, et puis après, ça s'est étendu aux régions voisines, et ça a posé énormément de problèmes, tout ça. Qui faisait partie du peuple ? Qui pouvait décider ? Vous voyez ? Bon, il y a eu beaucoup de dissensions à cause de ça. Bon, mais je laisse ça. Et sur le deuxième point, celui qui nous occupe, la question, c'est celle de savoir, celle de discerner, ce que peut faire le peuple et ce qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? C'est ça la question. Et là, lisez la ligne 19-21. Alors, c'est plus bas, c'est deux paragraphes plus bas. Le peuple, qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-même tout ce qu'il peut bien faire. Et ce qu'il ne peut pas bien faire, il faut qu'il le fasse par ses ministres. Par ses ministres ou aussi ses magistrats, c'est la même chose. Vous voyez, il y a des choses que le peuple ne peut pas faire, pour lesquelles il n'est pas compétent. Et pour ces choses-là, il faut qu'il délègue. Il doit déléguer certaines fonctions à une élite éclairée, à des magistrats, à des ministres. Et il a besoin également d'être guidé par un conseil ou un sénat. Le sénat, ici, est composé d'une sorte d'aristocratie des sages qui vient en quelque sorte guider le peuple dans ses choix. Ligne 36, 42. Il a besoin, c'est plus bas, juste après. Il a besoin, comme les monarques, et même plus qu'eux, d'être conduit par un conseil ou sénat. Vous voyez ? Et j'ajoute la suite. Mais pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il en élise les membres. Soit qu'il les choisisse lui-même, comme à Athènes, ou par quelques magistrats qu'il a établis pour les élire, comme cela se pratiquait à Rome dans quelques occasions, des modalités différentes. Donc, vous voyez, les magistrats, ici, sont désignés par le Sénat à Rome, c'est le cas à Rome, et la fonction de ces magistrats, ben, c'est d'administrer les affaires. Alors, ils sont édiles quand ils s'occupent, par exemple, je ne sais pas, de la voirie, la gestion de la ville. Ils sont questeurs quand ils sont juges. Hein. Mais quelle que soit la fonction qu'occupent ces magistrats, cette fonction, elle est obtenue par délégation. C'est-à-dire que le peuple, hein, l'autorité vient du peuple, de sa souveraine puissance. Hein. Quant au Sénat, son rôle, comme je l'ai dit, est de conseiller le peuple avant qu'il ne vote les lois. C'est très important que le peuple décide des lois par ses suffrages. C'est juste, c'est vrai, mais cela ne signifie pas qu'il les élabore lui-même. Ainsi, à Rome comme à Athènes, dans l'Antiquité, eh bien, le Sénat mettait à l'essai une loi pendant un an avant de la faire ratifier. Comme l'indique le dernier paragraphe du chapitre, vous tournez la page, tout dernier paragraphe, dernière ligne, les dernières lignes du chapitre, voyez ce que je lis. Les arrêts du Sénat avaient force de loi pendant un an. Ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple. Il n'y avait pas de 49-3, hein. Ça fait une ratification par le peuple. C'est lui qui décide. Bon. Alors, si le peuple est incapable de gérer par lui-même, s'il doit confier cette tâche à des ministres, il est en revanche capable de discerner le mérite des hommes qui peuvent exercer ces hautes fonctions. Et là, vous lisez donc page 1, vous retournez, regardez, à la fin, au bas de la page, à gauche. Hein, regardez ce que dit Montesquieu. Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelques parties de son autorité. Il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer. Là, il est capable. Et des faits qu'il tombe sous les sens. Ce sont des faits, c'est visible, c'est empirique, pas besoin de raisonner. Un peu de bon sens et d'observation. Hein ? Bon, et alors vous avez les exemples qui viennent après. Il sait très bien qu'un homme a été souvent à la guerre, qu'il y a eu tel ou tel succès. Il est donc très capable d'élire un général. Alors vous savez qu'à Athènes ou à Rome, il n'y a pas d'armée de métier. Les généraux sont élus. Les stratèges, c'est le général dans la cité athénienne. Périclès a été élu 22 ou 23 fois général, stratège. Donc c'est une haute fonction qui est au fond donnée, hein, par le suffrage populaire. Hein. Donc c'est très important ça. Hein. Et les citoyens sont soldats. Hein. Il n'y a pas d'armée, encore une fois, professionnelle. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ça. Une armée professionnelle. Ou avant, vous avez eu les mercenaires, hein, aussi. Mais ça, c'est autre chose. Bon. Alors, par exemple, si je poursuis, prenez l'exemple du juge. Il sait qu'un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal comptant lui. Enfin, ça, je suis pas toujours sûr que ce soit le cas, surtout quand j'ai perdu. Mais bon, qu'on ne l'a pas convaincu de corruption... En voilà assez pour qu'il élise un prêteur. Un prêteur, donc, c'est un juge. Oh, c'est un prêteur. Oh, je ne suis plus questeur, prêteur, j'ai tendance à mélanger. Alors, conclusion du passage. Conclusion du passage. Eh bien, regardez plus loin. Toutes ces choses sont des faits. C'est ligne 54. Toutes ces choses sont des faits dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. Mais saura-t-il conduire une affaire, connaître les lieux, les occasions, les moments, en profiter? Non, il ne le saura pas. Ah non, non, le peuple, il... Non, il n'est pas capable. Alors là, il y a préjugé, hein. Bon, c'est vrai que il y a une sorte de, comment dirais-je, d'avis assez définitif qui est tout à fait contestable. C'est bien parce que effectivement, il n'y a pas eu d'instruction ou parce que qu'il n'est pas capable. Hein. Mais on n'a pas l'idée d'une instruction publique à l'époque, hein, évidemment. Alors, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement d'éclairer le peuple, hein, de le guider. Il s'agit aussi et surtout de canaliser ses passions, d'endiguer ses passions. Et le bon moyen, ici, c'est d'établir des lois qui limitent sa puissance et évitent que cette puissance ne s'exprime de manière dévastatrice. Alors, comment canaliser et limiter sa puissance? Eh bien, par une loi électorale. Une loi électorale qui le divise en de certaines classes, dit Montesquieu. Regardez, ligne 82, colonne de droite, ligne 82 à 86. Dans l'État populaire, dans la démocratie, on divise le peuple en de certaines classes. C'est dans la manière de faire cette division que les grands législateurs se sont signalés. Et c'est de là qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. Alors, il va donner ensuite l'exemple de deux grands législateurs, Servius Tullius à Rome, qui fut un monarque du VIe siècle avant Jésus-Christ, et puis Solon. Solon, je crois que c'est à peu près même période en Grèce, à Athènes. Par exemple, voyez ce que dit Montesquieu de la loi électorale établie à Rome par Servius Tullius. Eh bien, ligne 88-89, voyez ce qu'il dit. Il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Et il suivit ainsi l'esprit de l'aristocratie. Alors, qu'est-ce que fait, bon, je résume, hein, ce que fait Servius Tullius, et en quoi il est un grand législateur, selon Montesquieu. Eh bien, il divisa le peuple de Rome en 193 centuries. On dirait des circonscriptions, si vous voulez, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Enfin, ça nous permet d'imaginer. Donc, il divise le peuple en 193 centuries, et, qui formaient 6 classes électorales. Il mit les riches en plus petit nombre dans les premières centuries, les moins riches en grand nombre dans les suivantes, et puis il regroupa la foule des indigents, des SDF, si vous voulez, dans la dernière. Remarquez, c'est un vieux procédé, hein, le découpage des circonscriptions, parfois, ça peut ressembler à ce genre de micmac. Hein. Bon, donc, vous voyez, et alors, ce qui résume bien effectivement la chose, c'est la dernière phrase ici du paragraphe, et chaque centurie, regardez bien, c'est ligne 95, et chaque centurie n'ayant qu'une voix, c'était les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage plutôt que les personnes. Ben voilà. Voilà la bonne solution. Vous voyez? Donc, le bas peuple, comprenez, il faut tout de même le contenir. Hein. Donc, il faut, bon, lui donner un peu. Il va participer. Hein. Il va voter. Mais sa représentation sera tout de même bien minorée. Seuls ceux qui ont des richesses sont responsables. Le grand législateur Solon procède d'une manière analogue à Athènes, au VIe siècle. Alors, je vous dirais, si ce que dit Montesquieu, Il le tire de la lecture des historiens, hein. Il n'a rien inventé. C'est bien ce qui se passe effectivement à Athènes et à Rome. Bon. Alors, je repose ma question. Est-ce que la démocratie antique, c'est le gouvernement du peuple par le peuple? Est-ce que c'est le pouvoir du peuple? Oui, en théorie, oui. C'est lui qui détient la souveraine puissance. C'est vrai. Mais il ne participe pas vraiment directement à la gestion des affaires. Vous voyez ? Et l'analyse de Montesquieu, qui, je répète, s'appuie sur des historiens latins et grecs, eh bien, montre que, au fond, l'idée qu'on a de la démocratie antique est assez sommaire, hein, et tout à fait discutable. Bon, si on y regarde de près, puisque tout est fait à Athènes comme à Rome, pour éviter que le peuple agisse directement. L'exercice pur de la démocratie ne pourrait que conduire le gouvernement démocratique à sa perte. C'est ça l'idée. En effet, c'est ça que je voudrais expliquer, si on s'en tenait à l'exercice pur de la démocratie, à l'exercice direct de la démocratie par le peuple, il n'y aurait pas d'autre procédé de désignation des magistrats, des responsables politiques, que celui du tirage au sort. Parce que la seule procédure démocratique, c'est le tirage au sort. L'élection n'est pas démocratique. C'est un procédé aristocratique. L'élection, c'est un procédé aristocratique parce qu'on élit un homme, en effet, à des responsabilités parce qu'on juge qu'il est le meilleur. À tort ou à raison. On juge qu'il est le meilleur. Donc, on considère que ce sont les meilleurs qui doivent exercer des responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'explique très, très clairement Montesquieu. Regardez bien au bas de la page, colonne de droite. Regardez ce qu'il écrit. Ligne 109. Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. Le suffrage par choix, c'est-à-dire l'élection, au sens comme nous l'entendons aujourd'hui, le suffrage par choix est celle de l'aristocratie. Et comme il le montre après, je poursuis ma lecture, le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Parce que, au fond, si vous y réfléchissez bien, le suffrage par le sort, le tirage au sort, n'humilie ni ne déshonore ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Comme dit Montesquieu, il n'afflige personne. Hein ? Ceux qui n'ont pas été sélectionnés savent que le hasard aurait tout aussi bien pu tomber sur eux. Donc le suffrage par le sort prévient du même coup l'envie et la jalousie à l'égard de ceux qui ont été désignés comme magistrats. C'est ça l'intérêt, si vous voulez. Le sort n'est pas tombé sur toi, bon, mais tu ne seras pas jaloux de celui qui a été désigné. Par contre, tu risques d'être jaloux de celui qui a été élu. Il ne vaut pas mieux que moi. Hein, vous voyez ? Alors, c'est vrai qu'idéalement, le suffrage par le sort, ce serait très très bien. Ça ferait du bien à pas mal de monde. Mais le suffrage par le sort a des inconvénients. Il risque d'aboutir à la désignation d'individus incompétents. Et c'est justement pour éviter ce défaut que les grands législateurs, comme Solon, ont introduit donc une dose, hein, une dose d'aristocratie. Et là, regardez bien, vous tournez la page, la ligne, je poursuis la lecture, ligne 114. Mais comme il est défectueux par lui-même, il parle du tirage au sort, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés. Et il explique comment Solon a procédé. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est remarquablement juste. Hein, les historiens disent que Montesquieu avait parfaitement compris comment ça se passait. Alors, vous voyez que pour sauvegarder le gouvernement démocratique, il faut introduire en son sein des procédures aristocratiques. Comme le dit Montesquieu, plus haut, hein, je reprends une formule qu'il a utilisée, que j'ai lue tout à l'heure, c'est de là qu'ont toujours dépendu la durée de la démocratie et sa prospérité. C'est bien parce que il y a des procédures aristocratiques qui corrigent la démocratie, qu'elle peut durer, qu'elle peut éviter de sombrer dans le chaos. Afin d'éviter qu'il ne soit emporté par les passions du peuple, eh bien, le gouvernement démocratique doit nécessairement limiter le pouvoir du peuple. Et dans cette logique, Montesquieu refuse de définir la liberté politique par la participation du peuple au pouvoir politique. Il n'entérine pas la définition républicaine de la liberté politique. Pour un républicain, effectivement, la liberté politique, c'est la participation du peuple, d'une manière ou d'une autre, au pouvoir politique. Montesquieu ne reprend pas cette définition. Il fait une distinction, et vous allez vous reporter à la page 5, dernière page. Et je vais expliquer cela, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Dans son fameux livre 11, dans lequel il étudie la fameuse Constitution d'Angleterre, il indique qu'il ne faut pas confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. On va lire le passage. Il ne faut pas confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. Alors, lisons d'abord le passage, j'explique après. Regardez, c'est la... Alors, livre 11, c'est la fin du chapitre 2, le début du chapitre 3. « Enfin, comme dans les démocraties, le peuple paraît à peu près faire ce qu'il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernements et on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. » Je lis la suite. « Il est vrai que dans les démocraties, le peuple paraît faire ce qu'il veut, mais la liberté politique ne consiste point à faire ce qu'on veut. » Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. Je reviendrai sur cette définition. Alors, pour dire les choses le plus simplement possible, sans modération du pouvoir du peuple, le gouvernement démocratique court à sa perte. Il ne peut pas assurer la liberté des citoyens. Il ne peut pas assurer la liberté du peuple. La liberté des citoyens, c'est la liberté du peuple. Pourquoi ? Parce que si le peuple dispose d'un pouvoir absolu, eh bien, à ce moment-là, effectivement, les citoyens seront dépendants de ces décisions momentanées. On pourra à tout moment changer de loi. On peut sombrer dans les tribunaux populaires. On sait très bien ce que ça veut dire. Pouvait être à la merci de n'importe quelle décision capricieuse de la majorité du peuple. Vous risquez de vous trouver dans une situation, dans un véritable enfer, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus de régulation, plus aucune régulation. Donc, c'est pour ça que le pouvoir du peuple, quand il est absolu, quand il n'a aucune limite, eh bien, il devient despotique, tyrannique. Vous voyez ? Donc, il faut que le pouvoir du peuple ait des limites et... Pour Montesquieu, les limites qui sont ici souhaitables, eh bien, ce sont des limites qui relèvent de procédures aristocratiques. Vous voyez ? Dans la démocratie antique, il y a des mécanismes de délégation du pouvoir, c'est ce qu'on a vu, où il y a aussi des lois électorales qui divisent le peuple pour éviter le danger d'un pouvoir absolu du peuple. Mais pour Montesquieu, ces dispositifs ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants pour canaliser vraiment les passions du peuple. Malgré les sages précautions des grands législateurs comme Solon, le peuple peut être amené à exercer directement sa souveraine puissance dans la démocratie antique. Et c'est ce qu'il écrit encore au livre 11, dans... le fameux chapitre 6 consacré à la Constitution d'Angleterre. Je vous ai photocopié le texte. C'est le texte qui est en bas à gauche. On va commencer par celui-ci. « Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques. » Il parle des républiques antiques. C'est que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives et qui demandent quelque exécution, chose dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée, car s'il y a peu de gens qui connaissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir en général si celui qu'il choisit est plus éclairé que la plupart des autres. Donc, vous retrouvez la même idée, vous voyez ? C'est-à-dire que le peuple est tout à fait capable de voir quels sont les bons, hein, quels sont ceux qui sont vraiment aptes à gouverner, à exercer des responsabilités, mais lui-même n'a pas les compétences. Ce serait dangereux de lui laisser ses compétences. Mais, regardez bien, cette fois-ci, il ne parle plus de délégation, mais de représentation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le mécanisme de représentation qui est présent dans un État moderne comme l'État anglais de son temps, eh bien, c'est un mécanisme beaucoup plus solide qui permet d'éviter beaucoup plus efficacement le danger que signale Montesquieu que le mécanisme de délégation. Parce que, alors, la monarchie anglaise, ce n'est pas tout à fait exactement une monarchie, comme dit Montesquieu. C'est une monarchie, c'est une nation, dit Montesquieu, où la République se cache sous la forme de la monarchie. Vous voyez ? La République se cache sous la forme de la monarchie. C'est-à-dire qu'on élit tout de même deux assemblées. Il y a les communes et puis il y a la Chambre des Lords. La Chambre des communes, la Chambre des Lords. Donc le peuple participe à l'élection de la Chambre des communes. Vous voyez ? Il élit des représentants. Bon. Mais ce mécanisme, pour Montesquieu, de représentation, a l'avantage de borner l'activité politique du peuple au seul choix de ses représentants. Et par là, il préserve véritablement du danger d'un exercice direct du pouvoir par le peuple. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il écrit. Regardez dans le texte qui est juste avant. Le grand avantage des représentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre. C'est-à-dire, il n'est pas compétent. Ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie. Je laisse la suite. Hein. Vous voyez ? Alors voilà, ça c'est l'idée moderne qui va émerger au XVIIIe siècle. Le premier, en quelque sorte, à formuler cette idée de représentation, cette nécessité d'une représentation du peuple, ici par des élites qui sont élues, c'est Montesquieu. Il sera suivi plus tard par l'abbé Sieyès, un des premiers acteurs de la Révolution française en 1789, il sera député, qui va écrire un texte très célèbre, qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation ?». Il sera suivi aussi par les fédéralistes américains, comme Madison, qui, Madison, lui aussi, effectivement, se prononce pour le mécanisme de la représentation, hein, lorsqu'il s'agit de concevoir la Constitution de 1787, Constitution de la Fédération, enfin américaine. Bon. Donc, vous voyez, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien dire les choses. C'est pour ça que c'est intéressant de lire Montesquieu. C'est que, contrairement à l'idée reçue, nous ne sommes pas dans des démocraties. Nous sommes dans des gouvernements représentatifs. Ça n'a rien à voir. Et les philosophes comme Montesquieu, comme Sieyès, comme Madison, savaient très bien ce qu'ils disaient. S'ils ont opté pour le gouvernement représentatif, c'était contre la démocratie. La démocratie n'est pas une bonne chose pour eux. Il faut un gouvernement représentatif, vous voyez, qui permet d'éviter effectivement que les passions du peuple s'expriment directement, parce qu'il faut contenir le peuple. En même temps, il est nécessaire qu'il participe, mais il faut contenir sa fougue. Vous voyez l'idée ? Et les représentants, c'est à eux de... Ils savent bien mieux que le peuple ce qu'il y a à faire, c'est à eux de décider. Et s'il y a un philosophe qui s'oppose frontalement à Montesquieu sur ce point, c'est encore Rousseau, dans le Contrat social. Et là, je vous ai photocopié un texte de Rousseau, un extrait du Contrat social, où il montre très clairement son opposition, justement, au mécanisme de représentation. Effectivement, pour Montesquieu, pour Rousseau, la souveraineté du peuple ne peut pas être représentée. Elle ne peut pas être représentée. C'est-à-dire que si elle est représentée, eh bien, elle n'existe plus. Elle est anéantie. La représentation, la souveraineté ne se délègue pas, elle ne se représente pas. Elle s'exerce directement. Et les députés, parce que on pourra toujours objecter, oui, mais dans une grande nation, on ne peut pas tous s'assembler. Hein, il y a un problème de population, de nombre. Oui, mais les députés sont élus. Mais les députés, ils sont élus sur un mandat. Ce sont des commissaires du peuple. Ce ne sont pas des représentants. Ils ont un mandat impératif. Et s'ils ne respectent pas leur mandat, ils sont révoqués. Vous voyez, l'idée est tout à fait différente, hein, complètement différente. Donc, vous avez donc ce fameux texte de Rousseau dans le Contrat social, livre 3, chapitre 15, que je lis avec vous. Hein. La souveraineté ne peut être représentée. La souveraineté, c'est le pouvoir du peuple. Hein. Elle peut être représentée. La souveraineté, c'est le pouvoir de décider des lois. Hein. Elle ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée, qu'on ne peut s'en déposséder. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, dans la volonté du peuple, si vous voulez. Et la volonté ne se représente point. Elle est la même ou elle est autre. Il n'y a pas de milieu. Les députés du peuple ne sont donc, ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il reprend l'exemple de Montesquieu, hein, pour s'y opposer. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Élection, piège à con. Non, mais je le dis de façon vulgaire, mais ça revient un peu à ça, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est ça l'idée, hein, quelque part. Donc, vous voyez, il y a une conception complètement différente, hein, de la députation, hein, chez les deux philosophes. Alors, donc, c'est pour ça qu'il faut lire Montesquieu, parce que, bon, vous voyez, le problème n'est pas de savoir s'il a raison ou pas raison, mais c'est important de comprendre, hein, effectivement, ce qu'il dit. Alors, nous en venons à l'examen du principe, maintenant, du principe de la République. Alors, je ne terminerai pas, hein, ce soir, hein, mais je vais avancer pas mal tout de même. La question ici, ce n'est plus de savoir qu'est-ce qu'une République. La question, c'est de savoir à quelles conditions ce type de gouvernement est vraiment possible. C'est ça la question principale, maintenant. Or, s'il s'avère que pour vivre et se maintenir, une république a besoin de la vertu des citoyens, c'est-à-dire de l'amour qu'ils ont pour les lois, autant dire qu'elle est un gouvernement bien fragile. Dès que la vertu disparaît, la république s'effondre. Dès lors, en effet, que les citoyens, à commencer par ceux qui ont des responsabilités, cessent d'aimer les lois et ne leur obéissent plus, ben, c'en est fini de la République. Elle est alors une structure sans vie, que l'on invoque peut-être, et que l'on invoque peut-être d'autant plus volontiers, qu'elle n'a plus aucune consistance. Alors, voyons d'abord pourquoi la vertu est nécessaire à ce type de gouvernement qu'est une république, et seulement à lui, et pas par exemple à une monarchie. Voyons d'abord pourquoi elle est seulement nécessaire à une république. Alors, je reprends encore une fois le cas de la démocratie. Rappelez-vous ce que dit Montesquieu de la démocratie au chapitre 2 du livre 2. Je reprends la formule. Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque, à certains autres, il est le sujet. Toute la difficulté va se concentrer, justement, dans cette formule. Je développe. Parce que le peuple est à certains égards le monarque. Il peut vouloir être monarque en refusant d'admettre qu'il est aussi sujet. En refusant d'admettre qu'il est également assujetti aux lois qu'il se donne. Comprenez ? Parce qu'il a le pouvoir de décider des lois, il peut se croire au-dessus des lois. Il peut être tenté de refuser qu'elles s'appliquent à lui. Il peut être tenté, à ce moment-là, d'ôter aux lois toute consistance. Et on voit donc que, comme je le disais au départ, la difficulté spécifique de la République, et particulièrement de la démocratie, tient au rapport des citoyens aux lois. C'est-à-dire, l'auteur des lois, les citoyens, est aussi leur sujet. Vous voyez ? Alors, comment dès lors s'assurer de leur obéissance ? Comment s'assurer de l'obéissance des citoyens, s'ils sont à la fois, vous voyez, monarque et sujet ? Donc, dans une monarchie, le problème de l'obéissance ne se pose pas. Vous avez d'ailleurs, bon, je ne vais pas le lire parce que ça serait un peu trop long, mais vous lirez vous-même le texte qui se trouve, page 3, en haut, à gauche, que la vertu n'est point le principe du gouvernement monarchique. Page 3. C'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire qu'une monarchie, je résume, une monarchie n'a pas besoin de vertu. Elle n'a pas besoin de vertu. Hein. Elle peut se contenter de fonctionner de manière assez économique, avec un minimum de moyens. L'obéissance est assurée, avec un minimum de moyens. Les lois suffisent. Les lois suffisent. Alors que dans une république, il faut une énergie considérable, un effort considérable des citoyens, vous voyez, pour obéir. Bon. Et, vous voyez, là, il y a une différence très, très nette entre les deux gouvernements. Le problème de l'obéissance ne se pose pas non plus dans un gouvernement despotique, hein, puisque là, c'est la crainte. Hein. C'est la crainte qui s'exerce. Bon. Et si elle ne s'exerce plus, ben, elle tombe. Donc, l'obéissance n'est vraiment un problème que dans la démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que les hommes soient capables de s'auto-contraindre. Il faudrait que les hommes soient capables de s'auto-contraindre à obéir aux lois qu'ils se donnent. Ça paraît très difficilement concevable. Mais sans la vertu, justement, sans la vertu, ce problème n'aurait aucune solution. Parce que, justement, rappelez-vous, la vertu, c'est cette passion qui seule peut obtenir que celui qui est déjà monarque, le peuple, soit aussi sujet, en lui faisant aimer les lois qu'il doit respecter. Vous voyez ? La vertu fait que le citoyen, par amour des lois, va obéir aux lois. C'est grâce à cet amour, si vous voulez, que la difficulté que j'ai énoncée va pouvoir se résoudre. Donc, vous voyez, la vertu donc, fournit la motivation qui permet d'obéir aux lois, alors même que ces lois vont à l'encontre de mes inclinations, de mes passions égoïstes. Et donc, seule la vertu peut conduire les citoyens à préférer l'intérêt général à leur intérêt particulier. Vous voyez ? Et c'est comme ça que les lois vont pouvoir subsister, sinon ça ne tiendrait pas. Et donc, sans la vertu, bah, vous savez ce qui se passe, il n'y a plus de république, hein ? Il n'y a plus de république, ou il n'y a de république que formelle. Vous comprenez que l'idée forte de Montesquieu, qui sera reprise aussi là par Rousseau, c'est que la république, quel est son lieu ? En quoi consiste la réalité ? Son lieu, son existence, elle se trouve dans le cœur des citoyens. Elle n'a d'autre réalité au fond, que le cœur des citoyens. Elle n'a d'autre lieu que le cœur des citoyens. Elle n'existe que par le cœur des citoyens, que par l'amour qu'ils ont des lois. Sinon, elle n'existe pas. Sinon, bah, une république, c'est un cadre vide, formel. C'est pas vraiment une république. Alors, évidemment, le terme de vertu, et je vais bientôt arrêter là, parce que, oui, il faut que j'arrête, sinon ça va être trop long. Mais il faudra qu'on aborde ça. Hein. Le terme de vertu peut nous paraître aujourd'hui assez désuet, assez vieux jeu. Et on est tenté aujourd'hui de remplacer le mot vertu par l'expression esprit civique. On préfère parler de civisme plutôt que de vertu. Vous voyez, ça fait plus moderne. Seulement, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que le mot civisme ou l'expression esprit civique fait perdre l'essentiel, justement, de la vertu, qui a une dimension passionnelle. Ce qui est important dans la vertu, c'est qu'elle a une dimension passionnelle. Elle est un amour. Elle est une forme d'amour. Elle est l'amour des lois. Et si vous oubliez cette dimension affective, vous ne comprendrez pas pourquoi des citoyens peuvent se dévouer corps et âme à la chose publique. C'est ça qui est important. S'il n'y avait pas cette dimension passionnelle, vous voyez, de la vertu, qui est un sentiment, eh bien, il n'y aurait pas, effectivement, d'adhésion aux lois. Hein. Et pour éviter toute confusion, parce que on dit, bah, vertu, comme nous, pour nous, vertu, ça nous évoque quoi? Des gens un peu ennuyeux, rébarbatifs, pudibonds, etc. Non, justement, la vertu, au sens civique du mot, c'est pas la vertu morale, c'est pas la vertu chrétienne, et Montesquieu s'en explique dans l'avertissement, le fameux avertissement où il répond à ses censeurs. Il écrit la chose suivante, je vous lis juste un extrait. « La vertu dans la République, c'est l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité. » Et vous voyez que pour lui, l'expression « amour des lois », « amour de la patrie », « amour de l'égalité », c'est équivalent. C'est équivalent, et ici il faut être clair sur la notion de patrie. La patrie, ce n'est pas une ethnie. C'est pas une ethnie, c'est-à-dire qu'aimer sa patrie, c'est pas se glorifier d'avoir des racines, d'avoir un terroir, d'être chez nous. Ça, c'est une conception ethnique, vous voyez, qui n'est pas républicaine. Mais aimer sa patrie, c'est aimer les lois de son pays. Et aimer les lois de son pays, c'est nécessairement aimer l'égalité de traitement et de statut des citoyens. C'est aimer l'égalité de statut et de traitement que l'application des lois implique pour tous les citoyens qui en font partie. Vous voyez ? C'est ça qui est important. C'est que, ici, l'égalité des citoyens est au cœur de l'amour des lois. Hein ? Ce qui va donner la fraternité, si vous voulez. Hein ? Mais c'est fondamental. Hein ? Et, alors, je vais peut-être en rester là. Je dirais, si, juste une petite remarque pour terminer, mais bon. Je dirais que le mot « vertu », qui est tombé en désuétude, il vient des Grecs et des Latins. La virtu, c'est la force. La force, c'est la puissance chez les Grecs et chez les Latins. C'est la puissance, c'est une force. Hein, il faut la... Donc c'est un sentiment qui est une véritable force, en quelque sorte. Mais, et d'ailleurs, on pourrait penser que Montesquieu reprend ce terme au philosophe Aristote, qui définit la vertu comme l'excellence de l'homme. Hein, comme l'homme vertueux, c'est l'homme accompli qui réalise ses capacités en quelque sorte, et étant entendu que pour Aristote, la nature de l'homme, c'est celle d'un animal qui est à la fois rationnel et politique. Vous voyez ? Donc, au fond, il est rationnel au sens où il est capable de se diriger par par sa raison et de maîtriser ses passions, et il est politique au sens où il est capable, avec ses concitoyens, d'exercer le pouvoir commun. Vous voyez, c'est ça que dit Aristote. Donc, d'une certaine façon, oui, Montesquieu reprend le mot « vertu » aux anciens. Mais il y a une différence avec Aristote. Pour Aristote, la vertu, c'est tout de même quelque chose d'élitiste. La vertu, c'est une disposition qui est acquise, qui s'appuie sur l'intelligence, sur le jugement éclairé. Donc il faut d'une certaine façon... Ah, c'est une certaine élite qui s'élève à la vertu en ce sens-là. Hein. C'est une disposition qui n'est acquise que par quelques-uns, que par ceux qui sont instruits et éclairés. Or, pour Montesquieu, c'est pas du tout ça. La vertu, c'est une passion, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui n'est pas le privilège des gens les plus instruits, les plus éduqués. C'est un sentiment, bien sûr, qui n'est pas inné, puisque il s'acquiert par l'éducation, mais l'acquisition de la vertu ne dépend pas de qualités intellectuelles élevées. Et là, je termine juste par ce que dit Montesquieu au livre 5, en haut à droite, page 3. Donc, vous voyez que la vertu, c'est accessible à tous, à tous les hommes, qu'ils soient instruits, élites ou non. Hein. Bon, voilà, je lis. La vertu dans une république est une chose très simple. C'est l'amour de la république. C'est un sentiment. J'insiste sur le mot. Et non une suite de connaissances. Donc, il désintellectualise la vertu. Vous voyez ? Elle n'est pas l'affaire d'une élite, comme pour les Grecs. Justement, là, il y a une différence. Le dernier homme de l'État peut avoir ce sentiment comme le premier. Et quand le peuple a une fois de bonnes maximes, il s'y tient plus longtemps que ce qu'on appelle les honnêtes gens. Les honnêtes gens, c'est-à-dire l'élite, en fait. Hein. Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent, il a tiré de la médiocrité de ses lumières un attachement plus fort pour ce qui est établi. Donc, vous voyez, la vertu est accessible à tous. Elle s'exprime comme l'amour des lois. Elle concerne tout le monde. Et la corruption de la vertu, elle ne commence pas par ceux qui sont les moins instruits, par ceux qui ont le moins de connaissances. Elle commence plutôt par ceux qui sont les plus instruits. Elle commence plutôt par ceux qui ont des connaissances, par l'élite. Et c'est ça qui est remarquable. C'est-à-dire que et c'est ce que Montesquieu montrera par des exemples. Il montre, par exemple, dans le livre 8, il montre l'exemple des Crétois. Les Crétois, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Crétois? Quand ils s'apercevaient que les élites, les magistrats, étaient corrompus, eh bien, le peuple crétois, eh bien, pour tenir les magistrats dans la dépendance des lois, eh bien, ils n'hésitaient pas à utiliser contre les magistrats le moyen de l'insurrection, s'insurger pour remettre les magistrats dans le droit chemin. Voyez. Donc, vous voyez, il y a un éloge du peuple quelque part aussi chez Montesquieu, voyez, d'une certaine manière. Il a un attachement plus fort, en quelque sorte, à la République que les élites qui sont toujours prêtes plus ou moins à trahir. Hein, voyez l'idée. Donc, alors, en tout cas, j'arrête là. C'est, vous l'aurez compris, la dimension passionnelle de la vertu qui va faire toute son efficacité, toute sa force, qui va faire que si on est vraiment animé par ce sentiment, eh bien, on se sentira concerné par la République, on ne sera pas résigné aux exactions des gouvernants, on ne laissera pas faire, hein, on s'insurgera. Et elle est cet amour des lois qui empêche les hommes de se replier sur leurs intérêts, hein, voyez, elle est ce sentiment qui les empêche de se dépolitiser. Et la dépolitisation, c'est effectivement l'effondrement de la République. Voilà. Donc, j'en reste là. Alors, évidemment, on verra que la question principale, la question centrale qui va se poser, c'est la question de l'éducation. Comment devenir vertueux? Et comment le rester? Et ça, ça ne va pas être simple. Bon, mais je ne peux pas vous tenir la jambe pendant 3 heures. Voilà. Alors, vos questions.
Donc, pour Montesquieu, la formule « tout le pouvoir aux soviets », c'était la porte grande ouverte au despotisme, à Staline.
Ouais, je ne dirais pas comme ça. Et tout le pouvoir aux soviets... non, parce que Staline, c'était une confiscation despotique par un homme.
Ah oui, on est d'accord.
Oui, on est d'accord.
Est-ce que c'était un pouvoir...
Le pouvoir du soviet, c'est le pouvoir des gens à la base, qui pensent s'auto-organiser, sans justement se trouver sous la dépendance d'un chef. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, je dis pas que c'est inéluctable que ça aille effectivement vers ça. Mais c'est vrai que pour Montesquieu... Alors, on peut discuter, parce que c'est sûr que, après tout, c'est peut-être discutable.
C'est polémique.
Ouais, tout à fait. Pour lui, là, il y a quand même une affirmation qui mérite au moins une discussion. Pour lui, effectivement, le peuple est incapable de s'auto-organiser, de s'auto-instituer. C'est un législateur qui organise le peuple, qui découpe le peuple, vous voyez, d'une certaine façon. Il y a l'idée que le peuple, au sens social du mot, le bas peuple, il est mineur. Il est mineur. Et il le sera toujours. Il n'y a pas l'idée d'une émancipation du peuple par l'instruction qui permettrait, au fond, aux hommes de tous accéder à des connaissances et à décider collectivement. Elle n'est pas présente dans ce texte. Ah, c'est clair. C'est clair, hein, ça c'est...
Dans le cas, dans ce cas-là, où est le loup, je dirais, pour l'évolution des soviets à Staline, du point de vue de Montesquieu.
Du point de vue de Montesquieu, c'est-à-dire que le problème des soviets, c'est qu'ils n'étaient pas organisés au départ sur l'idée qu'il fallait faire n'importe quoi, qu'il s'agissait uniquement d'exprimer des passions de manière débridée. Hein, c'est pas du tout. Alors, pour Montesquieu, l'idée, c'est que si le peuple, en tout cas, bon, c'est une dérive qui n'est pas négligeable. Si le peuple effectivement est lui-même son propre chef, sans aucune limite, bon, on risque d'arriver très vite à des dérives, comme par exemple les tribunaux populaires.
Voilà.
Enfin, je prends cet exemple parce que c'est peut-être celui qui illustre mieux le problème qui se pose. Bon. On va faire un tribunal populaire, là, entre nous, et lui, hein, vous êtes d'accord, il a trahi. Bon, on va l'exécuter tout de suite, c'est pas la peine de... Bon, voilà, oui, il n'y a plus de contre-pouvoir, si vous voulez. Voilà, c'est une espèce de force qui s'exprime de manière un peu sauvage. Oui, ça peut effectivement aller dans ce sens-là. Ça, c'est... Alors, Montesquieu ne voit que ça, n'envisage que ça. Il n'imagine pas qu'il puisse y avoir, de la part du peuple, une auto-organisation qui ne tombe pas là-dedans.
La vertu, là, qui est évoquée, ça a quelque chose à voir avec la vertu de Machiavel
Ça a quelque chose à... Oui, au moins, un point commun, c'est la vertu, c'est la force. Hein. Mais chez Machiavel, la vertu, c'est la qualité du prince, pour l'essentiel, qui sait s'adapter aux circonstances, qui a une fermeté et une grande souplesse en même temps. Hein. Bon, là, la vertu, elle est la force, la force des hommes, des citoyens, des citoyens qui composent la démocratie. Parce que tout de même, c'est ça qui est important hein, chez Montesquieu. L'idée, c'est que il faut que la démocratie, elle ne peut pas venir d'en haut. une élite qui considère que le peuple est une bande d'imbéciles et qu'il faut lui expliquer, faire un peu de pédagogie, hein, bon, pour lui expliquer ce qu'il n'a pas compris, pour mieux faire passer ses instructions, ça non. Le peuple est mobile, il est actif. Il est là, il participe à la vie de la cité, sur la place publique, il délibère, enfin, il participe tout de même, hein, il y a une activité politique. Et elle est conflictuelle. Il y a des intérêts qui s'affrontent. Ça, c'est la vie démocratique. Hein. Donc, il n'y a pas de... toute forme d'apathie, de repli sur soi, c'est effectivement ce à quoi expose le monde moderne, comme le montrera aussi Tocqueville à sa façon, qui est un disciple de Montesquieu de ce point de vue-là. Hein, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de démocratie sans participation tout de même. Il faut une participation, mais il faut qu'elle soit modérée. Voilà, c'est-à-dire que c'est la critique qu'on va faire de la représentation. C'est-à-dire effectivement, on la démocratie se limite à l'élection de représentants tous les 5 ans, et puis entre deux, bon. Voilà. C'est l'intérêt de la lecture de Montesquieu, confronté à Rousseau, hein, d'ailleurs, c'est de venir nous amener à comprendre, à réfléchir là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il y a une idée péjorative du peuple, qu'on le veuille ou non. Même si elle n'est pas que péjorative. Hein. Et d'accord.
D'où l'idée peut-être aussi de tout le débat sur la démocratie participative. Comment oui. arriver à faire en sorte que le peuple participe.
Alors, c'est assez curieux d'ailleurs qu'on parle de démocratie participative, parce que une démocratie représentative, c'est comme un rond carré. C'est une contradiction dans les termes, c'est un oxymore, si on a bien compris. C'est pour ça que jamais les philosophes comme Montesquieu ou Madison et d'autres à sa suite ne disent démocratie. Ils parlent d'un gouvernement représentatif. En tout cas, ils n'envisagent pas, enfin justement, ce qu'ils veulent éviter, c'est la démocratie, au sens où il y a participation. Et dans la mesure où la participation pose problème, elle risque de déguiser les passions, elle risque d'entraîner des luttes de factions.
Mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas, cette idée de participation, on ne peut plus la chanter, on ne peut plus la laisser produire, on ne peut pas la.
Oui, mais c'est étrange qu'on parle de démocratie participative, parce que la démocratie, elle est participation, ou elle n'est rien. Alors, la seule question que se pose Montesquieu, ou tous ceux qui décrivent la démocratie, ou l'analysent la démocratie, c'est qu'ils disent, bon, il faut des régulateurs, il faut des mécanismes de modération, de délégation, enfin, bon, il faut tempérer, il faut... Et d'ailleurs, Tocqueville est exactement dans ce discours, lui aussi. Totalement. Mais oui. Ah, les gueux, hein, ils sont pénibles. Oui, bien sûr. C'est cher. Une question mais... Oui, ce qui me paraît assez étrange, c'est qu'on puisse... On tient tout de même à parler de démocratie. Nous parlons de démocratie, non démocratie, moderne, comme on dit. C'est étrange tout de même.
Parce que dans tous les pouvoirs, les gouvernements,
oui,
et les gouvernements qui sont démocratiques, il n'y a pas le mot démocratie. La démocratie populaire,
Oui, alors, oui. Il peut y avoir des conceptions populistes de la démocratie qui consistent à faire sauter tous les organismes.
Démocratique, souvent, c'est...
Oui. Oui, non, mais on peut. Il suffit pas d'invoquer la démocratie. On est d'accord, ça c'est clair. Une démocratie populaire de type stalinienne, c'est quand même un peu étrange. Non, mais ce qui autorise les uns et les autres à se réclamer de la démocratie, c'est qu'ils ont comme fondement le principe de la souveraineté populaire. C'est ça qui fait qu'ils... Voilà. Ah non, mais ça, oui, mais c'est un principe invoqué. Alors, à tort ou à raison, hein, mais voilà. C'est pour ça qu'ils se présentent comme représentants du peuple. Voilà. Et c'est pour ça que la notion de peuple est un enjeu. Elle est un enjeu parce qu'effectivement, hein, vous avez compris qu'elle avait deux sens, on pourrait même dire trois sens, parce qu'il y a le sens culturel. Le peuple français, le peuple italien, le peuple... Bon, hein, bon, une délimitation... Donc il y a le sens politique, le sens social, le sens, culturel, historique, l'identité culturelle, si on peut dire. Et ces sens-là sont souvent confondus. Hein, sont souvent confondus. C'est pour ça que les débats sur la question sont souvent... un peu biaisé, un peu piégé, parce que justement, si on ne fait pas de distinction entre les différents niveaux de sens, on risque de ne pas s'y retrouver. Hein. Donc, c'est vrai que comment dirais-je, c'est au nom du peuple qu'on va effectivement mettre en œuvre une politique répressive, par exemple. De la même manière que ceux qui manifestent et qui contestent un pouvoir diront « Nous sommes le peuple, c'est nous. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple à Leipzig en 1989, ce que disaient les Allemands. Nous sommes le peuple, c'est nous. » C'est-à-dire que c'est comme... Vous voyez, le mot « peuple » est un enjeu. Hein? C'est un enjeu. Qui est autorisé à dire qu'il est le peuple. Qui ? Voilà. Et donc, toute contestation du pouvoir se commence par cette affirmation, c'est nous le peuple.
Le petit père des peuples.
Ah oui, ça c'est... c'est bien d'en haut, là. Oui ?
Est-ce que le problème n'est pas quand la démocratie représentative est un échelon intermédiaire entre la démocratie et l'aristocratie, quoi, parce que Frédéric Montesquieu classait entre démocratie et gouvernement aristocratique, la République était divisée par ces deux-là. Et là, on a l'impression d'un niveau intermédiaire, c'est-à-dire de représentants qui prennent le risque de temps en temps de se représenter.
Le problème des représentants, c'est qu'ils risquent de faire ce qu'ils veulent.
Et donc devenir une aristocratie.
De se constituer en aristocratie, en notable, qui n'ont pas de compte à rendre.
Et comment pourrait-il dire que c'est une aristocratie on conserve le terme démocratie, finalement.
Ah oui, non, mais ça, je alors, disons, l'idée de Montesquieu, qui sera aussi un peu celle de Tocqueville, c'est que la démocratie a besoin d'un correctif aristocratique pour se maintenir. Sinon, elle ne tient pas.
Globalement, dans le concret des choses, c'est pratiquement les gens à qui on dérègle le pouvoir de représentation qui deviennent, je dirais, les aristocrates.
Alors, voilà, c'est ça. Alors, le problème de la représentation, c'est ça. C'est, d'une part, de quelle manière on l'entend, à la façon de Montesquieu, à la façon de Rousseau, hein, parce qu'on peut représenter sans se sentir au-dessus de ceux qu'on représente. Hein, on est mandaté. Hein. Monsieur le représentant, t'as pas respecté ton mandat, dégage. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ou alors, le représentant, moi je suis un notable, je suis quelqu'un d'important, je discute avec les autres, je n'ai pas, à la limite, j'ai été élu sur sur telle orientation, mais bon, une fois que je suis élu, je considère que je ne suis pas tenu. Je ne suis pas engagé. Et donc, c'est ce qui expose à la critique, effectivement, à ce moment-là, de cette forme de représentation. Qui consiste à dire, bah oui, c'est pas normal, c'est scandaleux. Et oui, c'est ce problème-là. C'est ce problème-là que les Gilets jaunes, par exemple, soulevaient, hein, en disant, voilà, nous voulons un référendum d'initiative populaire, etc. Voilà, bon, on veut pas, les représentants, on n'en veut plus. On veut pas que quelqu'un parle à notre place. C'est nous. Oui?
Le peuple et les citoyens.
Ouais.
Parce que le peuple a l'impression d'un collectif, les citoyens ont l'impression d'un ensemble d'individus.
Enfin, d'individus. Ah non. Non, un citoyen, c'est toujours le membre d'un collectif.
Oui, mais quand vous avez parlé du rapport à l'obéissance.
Oui, oui. Alors, c'est, bon, là, je reviens là-dessus. Disons que le citoyen, effectivement, est un individu en tant que membre. Du peuple souverain, il participe avec les autres citoyens à l'élaboration des lois. Bon, donc oui, il est individu, mais pas, il n'est pas détachable du peuple, hein, de ce point de vue-là. Alors c'est vrai que, alors là où est l'ambiguïté peut-être, c'est que. Quand il va s'agir d'obéir, par contre, oui, alors le citoyen devient sujet. C'est ça, l'individu devient sujet. Et donc il est tenté, justement, en tant qu'individu, de ne pas respecter ses engagements de citoyen en se soustrayant à ses devoirs de sujet. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans un double rapport.
Oui, ça se sentait bien.
Voilà, il est dans un double rapport. Et il ne veut que ce qui est avantageux, décidé, mais il ne veut pas...
Le peuple, voilà.
Mais quand... Alors, il a élaboré des lois, mais quand elles s'appliquent à lui, non, c'est pour les autres. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est que tout le problème est, qui va se poser, c'est comment faire que les hommes respectent leur engagement de citoyens, comment faire pour que les hommes, fassent passer l'intérêt général avant leur intérêt particulier. Non pas que l'intérêt particulier doit toujours être sacrifié, mais il y a des cas où, effectivement, ça peut être nécessaire. Là, est-ce que les hommes seront capables, vous voyez, de démêler les lois, c'est-à-dire de satisfaire l'intérêt général. Là, le problème. On va peut-être en rester là.
Yes.